de Thessaloniciens. Et le thème qui va être abordé ce soir, c'est le thème de la justice de Dieu. Thessaloniciens, on va lire les versets 6 à 12. Chapitre 1er, pardon. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme du feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Un texte assez surprenant à lire comme ça. Il parlait de jugement, puis de l'autre côté, il est parlé de la bienveillance. On ne sait pas si on doit se réjouir de les bonnes nouvelles là où il nous est parlé, là, que nous serons unis avec lui, que l'on sera participant, qu'on sera dans sa gloire. Et puis d'un autre côté, il est parlé du jugement, du jugement de Dieu. Et on se dit, mais c'est même étonnant de lire ça. Dieu se plaît-il à juger? Enfin, ça laisse ce passage, peut laisser un goût assez bizarre dans l'esprit de quelques-uns. Je vous le dis, le thème qui va être abordé ce soir, c'est le thème et la notion de la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu, la justice selon Dieu et la justice de Dieu. Parce que rappelons-nous que tout être humain, un jour, devra rendre compte à Dieu lui-même. Pas un tribunal religieux, pas une morale, mais c'est Dieu lui-même qui rendra justice sur nos vies. Dieu est amour, ça c'est clairement dit. Dieu est amour et de manière générale, c'est plutôt bien accepté. Ça fait partie des choses qui sont accepté sans besoin d'être justifié. Par contre, la justice de Dieu, ça demande un peu plus d'explication. Pourtant, la Bible nous dit bien que Dieu est amour, mais la Bible nous dit aussi que Dieu est juste, qu'il est la justice. Et d'ailleurs, si on y réfléchit jusqu'au bout, si on va jusqu'au bout de notre raisonnement, il n'y a pas de vrai amour sans justice, et il n'y a pas de juste justice sans amour. Si on veut parler de l'amour, si Dieu est amour, alors on sait qu'il est juste, qu'il est parfaitement juste. Sinon, ça devient du favoritisme. Et ce n'est plus une question d'amour. Et il n'y a pas de véritable justice si elle n'est pas animée d'amour. Sinon, alors, c'est de la vengeance ou du favoritisme. Non, l'amour et la justice sont deux éléments égaux l'un ne dépasse pas l'autre, ils se mutualisent l'un l'autre et se nourrissent l'un de l'autre. Trop de gens considèrent l'amour de Dieu comme une sorte de laisser aller au péché. Oh, Dieu aime, il aime tellement que non, il peut pas juger les gens, enfin, pas au point d'aller en enfer, quoi. Mais l'amour n'est pas une lâcheté. La Bible nous dit que celui qui aime ses enfants va reprendre ses enfants. Parce qu'on sait très bien que quand nos enfants font quelque chose qui n'est pas juste, si on les laisse faire, ils vont s'enraciner dans cette injustice et tôt ou tard, ils payeront les pots cassés. Ils vont prendre de mauvaises habitudes. Donc ce n'est pas de l'amour que de laisser faire. C'est au contraire de la faiblesse. Mais l'amour vrai, l'amour juste, est celui qui va au contraire essayer de reprendre, de rectifier, de corriger. Non pas pour punir au sens punitif du terme, mais pour éduquer au sens pédagogique du terme. Les gens pensent que l'amour de Dieu est une manière d'espérer d'éviter la justice de Dieu. Oh, Dieu est trop bon pour envoyer les gens en enfer. Mais la réalité, c'est que le principe du jugement de Dieu n'est pas une question de sentimentalisme. C'est une question de justice, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Quand la Bible nous parle, et comme nous l'avons lu, que Dieu sera celui qui va juger une certaine catégorie de gens, ce n'est pas que Dieu va exagérer. Ce n'est pas que Dieu va dépasser les bornes. Nous, il nous arrive en tant que parents, ou même dans nos relations les uns avec les autres, d'entendre dire « Je suis allé trop loin. J'ai eu un mot de trop. J'aurais peut-être pas dû. » Et en tant que parents même, il arrive même de culpabiliser, Dieu mince. Est-ce que j'ai bien fait de le punir là? Et on s'en veut un peu. Pour peu que l'enfant il force un peu sur les larmes, on se dit « Oh là, c'est un peu trop là pour ce que j'ai fait. » Mais c'est parce que nous jugeons ce que nous faisons par rapport à nos émotions, à nos ressentis. Mais la question de la justice n'est pas fondée sur les sentiments. Même notre justice humaine, enfin, en principe. Imaginez quelqu'un qui aurait tué vos enfants. Ok ? La personne est attrapée. Et le jour de son procès, vous êtes là. C'est déjà lourd à porter d'être là. Il y a l'assassin qui est là. Il y a le juge qui est devant vous. Et voilà, le juge, vous le voyez, il est content. Il a une bonne mine, content. Et alors, ça va ? Oh là là, je suis content. C'est l'anniversaire de ma fille. Oh là là, on va faire un bon petit... Bon, et c'est quoi le problème? Allez, aujourd'hui on acquitte tout le monde. Allez, vous êtes libres. Quelle est le bas de votre tête à vous? Sous prétexte que le juge aujourd'hui est bien luné, alors il fait grâce à tout le monde comme ça? Non, vous allez crier à l'injustice. Ou inversement. Ce jour-là, il est mal luné, et celui qui aurait dû prendre juste une amende, il va se prendre 5 ans de prison. Parce que ce jour-là, ça va pas? Il est patraque, il est malade, il s'est pris la tête dans les embouteillages, alors là il arrive au tribunal, allez rectifier tout le monde a la même punition, 10 ans de prison pour tout le monde. Non, la justice de Dieu n'est pas fondée sur les sentiments. La justice de l'homme ne doit pas être fondée sur les sentiments. Parce que dès que c'est fondé sur les sentiments, alors il n'y a pas de justice, il n'y a rien de solide. Si on parle d'ailleurs des sentiments, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et pour tous ceux qui le suivent. Si dans cette suite il y a des hommes, alors... Mais ce n'est pas le but. Dieu n'a pas créé, Dieu ne vous a pas créé, Dieu n'a pas donné la vie Parce que c'est lui qui est le communicateur de la vie sur les 6 milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette terre. C'est Dieu qui a voulu ces 6 milliards de vies et celles qui sont passées et celles qui viendront. C'est Dieu qui donne la vie. Et quand Dieu donne la vie, ce n'est pas pour souhaiter qu'elles aillent en enfer. Il les aime tellement que son désir, son sentiment, c'est que toutes ces âmes à qui il communique la vie puisse passer l'éternité avec lui. Ça, c'est son désir. Ça, c'est son sentiment. Mais la réalité, c'est que la justice qui est rendue n'est pas fonction du juge. La justice est rendue par rapport à celui qui est jugé. Et en l'occurrence, devant Dieu. La justice ne sera pas fondée sur les sentiments de Dieu. La justice de Dieu sera établie en fonction de nos vies, de ma vie, de ta vie, de la vie d'Angélina. Chacun rendra compte, nous l'avons dit, pour lui-même. Et combien l'amour de Dieu pourrait remplir l'univers et plus que ça, ce qui est en cause, ce qui est en question, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce qui est en question, c'est ma vie, c'est mon cœur, ce sont mes choix, ce sont mes décisions. Et dans ce texte-là, il est parlé de quelques catégories de personnes. Il nous est dit au verset 6, par exemple, qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice, dans le rapport divin, dans la justice de Dieu, il est tout à fait normal que ceux qui oppriment reçoivent tôt ou tard les conséquences de leurs actions. Et quand on allume la télé et qu'on voit la misère qu'il y a sur cette planète, on a envie de dire, mais c'est pas possible. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va s'arrêter, ce bazar? Jusqu'à quand les plus forts écraseront les plus faibles? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et jusqu'où on va aller? Mais pourquoi on réagit comme ça? Parce que dans le cœur de chacun, il y a ce cri d'injustice. Et donc il est juste que Dieu un jour intervienne et rétribue chacun selon ses actes. La justice de Dieu, évidemment, il n'est pas parlé de la vengeance, mais de rendre à chacun selon ses œuvres. De rendre à chacun selon ses œuvres. Et il nous est également dit qu'il est de la justice de Dieu de donner du repos à ceux qui auront souffert. Amen. Et là aussi, on pourrait se dire, mais tant de gâchis, tant d'hommes, tant de femmes qui pleurent, tant de situations, mais c'est foutu pour eux. Quand bien même est-ce que la situation, ils sont cassés, ils sont brisés par la vie, mais par la grâce de Dieu. Dieu est capable de donner une rétribution. Si elle n'est pas sur cette terre, elle sera dans les lieux éternels. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir de voir quelqu'un qui souffre. Mais soyons rassurés dans notre cœur de savoir que Dieu est celui qui donnera du repos à celui qui souffre. Alors, il serait faux de dire que ce sera le cas pour tous ceux qui oppriment et de tous ceux qui sont opprimés. Ce serait fonder toute la Bible sur ce verset-là, ce qui n'est pas juste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours par rapport à Dieu. Les chrétiens, ceux qui ont confié leur vie au Seigneur, et donc, allons jusqu'au bout du raisonnement, qui ont confiance en sa justice, alors le Seigneur leur dit, vous trouverez du repos, vous serez consolés. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire la confiance que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, même dans l'épreuve, même dans la persécution, même dans les situations où on a les larmes qui coulent. La Bible nous dit que tout ce que nous subissons à cause de son nom, il nous le rendra. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Dieu est fidèle et juste pour rendre à chacun, et surtout à chacun de ses enfants, les humiliations, la souffrance qu'il supporte à cause de son nom. Il y a un avantage extraordinaire de mettre notre confiance dans l'amour et dans la justice de Dieu. C'est que tout ce dont les hommes nous spolient, tout ce qui nous arrive et qui nous est complètement injuste, Dieu nous dit qu'il est dans sa justice de donner du repos à ceux qui sont dans l'affliction. Et quand Dieu dit qu'il rendra l'affliction à ceux qui affligent, il parle de ceux qui ne se seraient pas repentis. Parce que vous et moi, et là, si on reprend également ceux qui sont déjà aujourd'hui au Seigneur, reconnaissons qu'il nous est arrivé d'être ces gens qui affligeaient. Peut-être même est-ce qu'il nous arrive encore, et là, non pas par volonté, mais par maladresse, d'affliger des gens autour de nous. Est-ce que ça veut dire que le jour où je serai devant lui, il me rappellera toutes les maladresses et qu'il me punira, qu'il me châtiera? Non. Nous le verrons tout à l'heure. Mais là, il nous est parlé de ceux qui font souffrir les gens et qui ne se repentiront point, de ceux qui oppressent. Et Dieu leur dit, vous aussi, vous devrez un jour payer la note des souffrances que vous faites subir aux autres. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Cette ruine éternelle, loin de la face de Dieu, de cette flamme de feu. L'homme qui persécute son prochain, l'homme qui fait souffrir son prochain, récoltera ce qu'il est en train de semer aujourd'hui. Parce que chacun récolte ce qu'il a semé. Dieu ne veut pas la condamnation de ces hommes. Dieu ne veut pas que celui qui est le pire des criminels, le pire des bourreaux, Dieu ne souhaite pas que cet homme aille en enfer. Il ne souhaite pas lui rendre le monnaie de sa pièce. À tel point que quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour tous ces gens-là. Quand Jésus est mort à la croix, comme il le dit, je ne suis pas venu pour les bien-pensants, mais je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui souffrent, je suis venu pour ceux qui ont besoin d'un remède dans leur vie. Quand Jésus est mort à la croix, il a pris la place de ceux qui devraient être jugés. Quand Jésus est resté à la croix et qu'il a pris tous ses coups, ses crachats, ses humiliations, que cette pression spirituelle est venue sur lui, que la Bible nous dit même que lui qui était saint est devenu péché. Il a incarné le péché. C'est qu'il a porté sur lui tous les motifs de nos accusations. C'est pourquoi il est important de réaliser la justice de Dieu et de comprendre la justice de Dieu. Parce que Dieu aime tous les hommes, mais Dieu doit juger tous les hommes. Ceux qui ne veulent pas de Dieu vont rendre eux-mêmes compte de leur propre jugement et subiront par eux-mêmes les conséquences de leur jugement. Mais quiconque comprend qu'il ne peut pas supporter son jugement, nous ne sommes pas capables d'assumer notre propre jugement. Mais que nous avons compris que la justice de Dieu, c'est d'avoir donné Jésus, qui lui a supporté à notre place notre jugement. Alors nous ne mettons plus notre justice sur nous-mêmes, mais nous avons notre avocat, Jésus, qui non seulement a plaidé à notre place, mais qui a pris notre place même dans le jugement. Dieu ne veut pas ce que nous avons lu tout à l'heure. Qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un souhait, mais c'est une justice. En France, on construit des prisons, mais le désir, c'est pas de remplir les prisons. On aimerait pouvoir faire autrement. Mais il faut bien que justice se fasse. Et il faut bien emprisonner ceux qui sont dangereux. Mais la meilleure des solutions, c'est que ces hommes et ces femmes ne deviennent plus dangereux et qu'ils soient libres. La justice de Jésus, la justice de Dieu, c'est qu'il a donné Jésus pour retirer ce qu'il y a de dangereux dans nos vies, le péché, et pour nous donner la vraie liberté. Il nous est parlé, bien au contraire, non pas que Dieu veut condamner, mais il nous est au contraire parlé au verset 11, que Dieu a des projets bienveillants selon sa bonté. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu a des projets, c'est de la justice de Dieu de vouloir conférer à chaque être humain quelque chose de heureux pour sa vie. Au verset 8, nous avons une catégorie de personnes encore. Il nous est parlé de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ça? On va être jugé parce qu'on ne connaît pas Dieu? C'est pas un peu sévère ça? Mais là aussi, Dieu est juste. Non seulement Dieu est juste, mais on ne peut rien lui cacher. Et Dieu sait tout. Je vous lis un passage qui se trouve dans Romains, chapitre 1er. Il nous est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes. Voilà quelque chose qui contrebalance. Contre l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils, c'est-à-dire les hommes qui refusent de connaître Dieu, ils sont inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais au contraire, ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'incorruptible, etc., etc. Il est de la justice de Dieu de condamner ceux qui refusent de connaître Dieu. Ce n'est pas la notion de ne pas connaître Dieu, tel que nous pouvons se le dire ce soir, parce que nous avons la chance d'avoir la Bible, d'être enseigné, alors on pourrait se dire, mais on connaît. Mais c'est la situation de ceux qui refusent. Ils savent qu'il y a un Dieu. Leur conscience leur dit, l'univers dans lequel nous vivons nous interpelle. Il y a des systèmes, des choses qui nous interpellent, qui interpellent tous les êtres humains sur la divinité. Mais les hommes refusent de connaître. Ils refusent de chercher la vérité. Ils refusent. Il y a bien quelque chose qui les travaille. Mais ils refusent. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul va dire les hommes sont inexcusables. Parce que c'est sous leurs yeux. Mais ils refusent. C'est sous leurs yeux. Mais non, vraiment, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Ça s'appelle du mépris. Si vous êtes devant une personne, vous la regardez bien dans les yeux et que vous ne lui dites pas bonjour, ça vous est arrivé? Que quelqu'un fasse semblant de ne pas vous voir alors qu'il vous a très bien vu, mais il va faire en sorte de faire style qu'il ne vous a pas vu. Si c'est avec des hommes, c'est déjà assez blessant. Mais la réalité, c'est que des hommes et des femmes vivent des dizaines d'années de la même manière vis-à-vis de Dieu. On sait que Dieu est là, mais on fait style qu'on ne le voit pas. On sait que Dieu est là, mais on ne le cherche pas. Les gens meurent, mais on fait comme s'il n'y avait rien du tout. Et les jours passent, les années passent. Des dizaines d'années passent, la vie entière passe, et les hommes refusent de connaître Dieu. Donc, il est de la justice de Dieu de donner à cet individu l'occasion de continuer sa vie en méprisant Dieu. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé avec quelqu'un qui, pour plaisanter, à un moment, je dis, non, je ne veux plus jouer avec toi ou je te dis pas bonjour. Et puis, cette personne vient vers nous après. Et puis, on lui rappelle, oh, tu ne veux pas me dire bonjour et maintenant, là, tu veux un chewing-gum, tu veux un bonbon? Alors, on lui fait remarquer que là, tu es intéressé. Là, tu es intéressé à me dire bonjour. Là, tu es intéressé à être gentil avec moi. Mais tout à l'heure, tu faisais bien mine de ne pas me connaître. Alors, si nous sommes pleins de bienveillance, nous finissons par lâcher le bonbon ou le chewing-gum. Mais si nous voulons un peu marquer le coup, on lui dit, c'est comme ça, là. Réfléchis. Réfléchis. Va dans ton coin, réfléchis un petit peu. Et change d'attitude. Ça, c'est ce que nous devons faire pour nos enfants. Mais lorsque c'est toute une vie, où l'individu refuse de connaître Dieu, il refuse de le chercher, il refuse de le connaître, et qu'il meurt, et que là, il est devant Dieu. Mais quel est le principe de justice qui va s'établir à votre avis? Tu as passé toute ta vie à refuser, à chasser le regard, à chasser de ton esprit, à étouffer la voix de ta conscience. Tu as tout fait depuis des années, des années, tu es là. Je mets des signes dans ta vie. Plus d'une fois, tu as été interpellé. Les circonstances t'ont interpellé. Les choses t'ont interpellé. Des amis t'ont interpellé. Et toi, tu as vécu en balayant ces choses-là. Du, oh, c'est rien, oh, c'est rien, oh, c'est rien, oh, c'est rien. Et là, je suis devant toi. Et tu vas me dire quoi? Je ne suis rien. Alors continue à vivre là où je ne suis pas. Il est de la justice de Dieu de rendre à ceux qui refusent de connaître Dieu la liberté de leur choix. Tu refuses de me connaître? Alors tu vas vivre dans un endroit où je n'y suis pas. C'est juste. De la même manière que il nous est dit dans cette phrase également que Dieu jugera ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Là, c'est plus la même catégorie. Tout à l'heure, on était chez les gens qui ne cherchaient pas à connaître. Oh, Dieu, ça n'existe pas. Ok. Oh, je n'ai pas besoin de lui. Ok, bah continue de vivre sans lui. Pas de problème, mais tu vas mourir sans lui. Et tu te reposeras sur ta propre justice. Pas de problème. Mais là, ce sont ceux qui refusent d'obéir. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont entendu. Ce sont des gens qui savaient. On n'est plus avec des ignorants. On est au contraire avec des gens qui savent. Ils connaissent. Mais dans leur cœur, ils disent non, je ne veux pas. Je sais ce que je dois faire, mais je ne veux pas le faire. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent peut-être même Jésus en personne. Peut-être qu'ils ont fait des expériences avec lui. Peut-être même que leur cœur a été touché. Peut-être même qu'ils sont capables de louer Dieu. Mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils refusent d'obéir. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'ils refusent le contrat. Ils savent qu'il y a un contrat céleste. Ils savent qu'il y a un contrat entre Dieu et les hommes. Ils savent que ce contrat se fait par la foi et par l'obéissance. Et ce contrat-là, ils disent non, moi je ne veux pas le signer. Je veux pas le signer. Imaginez, vous allez à un entretien d'embauche. Vous discutez. Vous connaissez. Et voilà, le patron, il dit, moi, vraiment, votre candidature m'intéresse. Et puis voilà qu'il vous tend le contrat. C'est juste à signer ici. Et puis, vous êtes embauché. Et pouvez-vous regarder le contrat? Et puis il dit, non, moi, le contrat, ça ne me plaît pas. Je veux pas. Je croyais qu'on était d'accord, je crois que c'était ce que vous vouliez. Ouais, je veux bien, mais en fait, je veux pas obéir. Vous allez me dire, c'est bizarre de faire ça. Mais c'est pourtant exactement le cas de ces gens qui savent. Et quiconque sait la parole de Dieu, quiconque connaît l'évangile, sait que c'est le meilleur des contrats. Mais ils refusent d'obéir et ils refusent de signer. Du coup, vous êtes peut-être allé à l'entretien d'embauche. Du coup, vous intéressez peut-être le boss. Du coup, vous avez peut-être tous les meilleurs avantages que n'importe quel contrat n'aurait jamais pu vous offrir. Mais du fait même de refuser de signer, le fait même de refuser d'obéir, vous passez à côté de tout. Et il en est de cela. Serait-il juste que le patron commence à sauter sur vous, à prendre votre main, à mettre le crayon et à vous forcer à écrire? Mais non, c'est complètement ahurissant. Non, ça se passe pas comme ça. Donc il est de la justice de Dieu de dire à ceux qui refusent d'obéir, qui n'obéissent pas, ben, si tu ne veux pas obéir et que tu refuses le contrat, alors tu iras là où je ne peux pas t'emmener. Et on vous ramènera à la sortie de l'immeuble où vous avez eu rendez-vous. Vous remonterez dans votre voiture et vous partirez sans avoir accepté d'être accueilli là même où vous auriez voulu postuler. Il y a des choses qui sont vraiment étonnantes à l'égard de Dieu. La Bible ne nous demande pas grand chose de compliqué. Elle nous demande d'être honnête, intègre, et de réaliser que si avec les gens, avec le monde, il peut y avoir des alternatives, avec Dieu, il n'y a pas d'alternative. Je connais un couple. Ils aiment pas la neige. Ils aiment pas aller à la neige. C'est leur droit. Alors ils vont au soleil. Ils vont côté mer. Ils aiment pas le poisson. Alors ils mangent de la viande. Ils aiment pas le rouge, hein. Alors ils choisissent le bleu. Et c'est vrai que tant qu'on est sur cette terre, on a la possibilité de trouver des alternatives. Mais ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui refusent d'obéir à Dieu, ben, il n'y a pas d'alternative. Jésus a dit, soit on est avec moi, soit on est contre moi. Soit vous me faites confiance, ou alors vous faites confiance à vous-même ou à autre chose. Soit vous me prenez comme étant votre juge, votre avocat, votre libérateur. Ou alors vous serez face à vous-même, à votre propre justice. Je ne sais pas qui peut avoir confiance en sa propre justice. Vous serez votre propre avocat. Je ne sais pas qu'est-ce que l'on peut vraiment dire devant Dieu. Vous serez votre propre libérateur. Il faut bien comprendre la différence entre l'enfer et le paradis. C'est défini au verset 9. Au verset 9, il nous est parlé Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. On a là les deux définitions. L'enfer, c'est défini comme une ruine éternelle. La ruine, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espérance dans la ruine. La ruine, c'est fini. Ce n'est pas même pas qu'on peut récupérer quelque chose. On a actuellement des images de villes qui sont ruinées. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des tas et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça l'enfer. C'est la ruine. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'espérance. Alors qu'il nous est défini le paradis comme étant là où il y a la face du Seigneur et la gloire de sa force. Ce qui définit le paradis, c'est la présence même de Jésus. Et c'est pour ça que ceux qui aiment Jésus iront avec Jésus. Et ceux qui méprisent, ceux qui ne refusent Jésus, ceux qui disent « Non, Jésus, non, moi, je n'ai pas envie de te connaître, je ne veux pas te suivre, je vais décider au contraire de faire ma vie et puis de même d'en profiter sur cette terre, quitte à écraser la tête des autres. » Ben vous allez aller dans un lieu qui est loin de la vérité, loin de la présence de Jésus. Parce qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de conciliation entre les ténèbres et la lumière, entre la haine et l'amour, entre le marasme et l'espérance. Il faut bien comprendre que l'enfer, c'est l'absence totale de Dieu, alors que le paradis, c'est la plénitude de la présence de Dieu. Il y a un choix à faire aujourd'hui. Celui de connaître Dieu, de chercher à connaître Dieu. Et celui d'obéir à Dieu. Alors, en conclusion, nous pourrions relire les versets 11 et 12. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Il est parlé de la vocation éternelle. Parce que nous avons été créés pour ça. Notre vocation, c'est d'être sauvés. Le désir de Dieu, c'est d'être sauvés. Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les projets bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur sera glorifié en vous, mes bien-aimés. Et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous prions, et nous allons encore prier, pour que ce soir, chacun ait le désir de vivre cette vocation qu'il attend. Dieu vous a créé pour la vie éternelle. Il n'y a qu'à le chercher, le connaître et lui obéir de tout votre cœur. Et vous verrez la puissance de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous ne serez pas seul dans ce choix-là. Je ne sais pas quelle est votre lutte, quelle est votre crainte. Mais avec Dieu, il n'y a pas à en avoir. Il y a juste à lui offrir notre cœur, comme nous l'avons chanté. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Prends tout, Seigneur. Amen.